1021.
Propriété Leclerc Communication. Boulevard Le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici Le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
1, 2, 1. Pendant une demi-heure, on fait le bilan du premier quart de la saison du Canadien et des Bruins de Boston.
Ça peut te faire ça en 10 secondes.
Ah, ça, je vais manger ma carotte. Hein.
Ça va pas bien.
Ah non, il me semble qu'on n'a rien à se vanter, c'est un site, tant dans un club que dans l'autre.
Là. Écoute, là, on a deux impressionnantes victoires depuis qu'on a changé de coach à Boston. Hein, des impressionnantes victoires de 1-0 contre le Hockey Club qui n'est plus les Coyotes.
C'est ça.
Et de 2-1 contre les puissants Red Wings de Détroit.
C'était la faute du coach.
Non, jamais de la vie. Hey, incroyable.
Non, on va jaser d'être ça avec Jeff tantôt si on réussi à le rejoindre, bien entendu. Denis, as-tu passé un beau week-end?
Week-end de hockey, week-end de tournoi. Une chance qu'on a le hockey au mois de novembre, parce que c'est le mois de novembre, hein, on va se le dire. Ça tape sur le moral d'à peu près tout le monde.
Ouais, hier, je suis sorti de l'aréna, il était autour de 20h là, ouais. Avec mon plus vieux, puis je trouvais que un dimanche soir, c'est ordinaire.
Faut les aimer, nos avec, enfants. Avec le vent d'en face, puis la pluie, puis pas de neige, mettons que c'est la recette parfaite du mois de novembre pour trouver le temps vraiment long. Ouais. Là,
hey, la semaine passée, je jasais avec Pascal. On était avec un représentant du syndicat des ambulanciers, puis on parlait des problèmes psychologiques que les ambulanciers pouvaient avoir, mais on parlait aussi de la couverture ambulancière à la grandeur de la région de Québec. Tout était dans le secteur de Saint-Og, puis il y a eu un petit problème de couverture, si je ne me trompe pas aussi. Là. L'ambulance n'était pas proche de l'aréna.
Écoute, on s'est posé la question dans l'aréna parce que pendant un match impliquant mon garçon, il y a un joueur de l'équipe adverse qui s'est blessé. Mauvaise chute. Il est tombé tête première, puis on voyait qu'il avait de la misère à se relever. Donc, les entraîneurs vont le voir, les arbitres vont le voir, puis là, ils reviennent vers les bancs, puis ils disent, bon, on semble avoir des symptômes de commotion cérébrale. Il bouge, tu sais. Il bouge ses bras, il bouge sa tête. Il est correct fondamentalement, mais on ne veut pas prendre de chance. Fait qu'on va appeler l'ambulance pour le sortir de la patinoire de façon sécuritaire, puis après ça, ben, faire les examens qui s'imposent. Et 40 minutes plus tard, l'ambulance n'était toujours pas arrivée. Le match a été arrêté, je pense, 1h15, 1h20.
Un enfant de quel âge?
Écoute, c'est des enfants de 11-12 ans dans le Pee-Wee, si je ne m'abuse. Mon gars, 11, il est d'un plus jeune, fait que ça ressemble à ça.
Le petit gars était à terre.
Le gars était à terre, le gars était sur le dos, sur la patinoire, puis on l'a gardé là jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. Puis on se posait la question. En fait, il y a peut-être des gens, peut-être même des responsables du tournoi qui nous écoutent, peut-être faire la lumière là-dessus. C'est-tu l'ambulance qui a été longue à arriver, où on avait prévenu que, justement, on faisait juste ça à titre préventif, puis qu'on n'était pas une urgence urgente, là. Tu sais, parce qu'on s'est vraiment posé la question. Moi, ce que j'ai entendu de la conversation des arbitres avec le banc des entraîneurs, c'est-à-dire on prend pas de chance. Il bouge, il a de l'air fondamentalement correct, mais on prendra pas de chance. T'sais.
Avant, il y avait les ambulances Saint-Jean. À l'intérieur, quand il y avait des tournois, il y avait tout le temps des gars et des filles de l'ambulance Saint-Jean qui étaient là. On a ça au centre Vidéotron.
Écoute, nous, au rugby, c'était tout le temps ça aussi.
Ça fait partie des interrogations que j'avais parce que oui, il y a des gens qui se sont retrouvés rapidement sur place, mais ça a été très long avant qu'on sorte le kid de la patinoire, puis ça a été très long avant qu'on réussisse à l'amener vers l'ambulance. Puis je comprends qu'on prend pas de chance, mais il y a quand même eu un délai qui a fait jaser dans les estrades. Le veut pas, les délais de couverture, ça fait la manchette depuis quelques années déjà dans la région de Québec. Puis tout le monde se posait la question dans la foule. Il dit, coudonc, c'est tout ça les fameux délais d'intervention que les ambulanciers nous parlent souvent.
Je suis pas un spécialiste, mais 40 minutes sur la glace, là.
C'est long.
Est-ce que l'inquiétude se sentait chez les parents? Est-ce que ça se jasait ou il y avait quand même les gens de l'équipe qui étaient là et tout le monde se sentait un peu en sécurité face à ça?
Bien, les équipes ont retraité au vestiaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les parents, puis je pense que la famille était là au complet. Là. Je pense qu'il y avait au moins une petite sœur qui était là. C'est des gens qui ont été rassurés, qui ont pu aller le voir rapidement. Je pense que son père est allé sur la patinoire aussi. C'est sûr que tout le monde est inquiet là, dans une histoire comme ça. Puis, tu sais, on parle pas d'agressivité dans le sport. Là. C'est une collision, c'est un accident. Il n'y avait rien d'intentionnel, ni d'un côté ni de l'autre. Le kid est mal tombé. puis il s'est pas relevé. Donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de gens du tournoi qui étaient là, manifestement, pour essayer de coordonner le tout. Mais ce qui a inquiété les gens le plus, c'était de voir, mais voyons, c'est donc ben long avant que l'ambulance arrive, c'est donc ben long avant qu'on puisse, à tout le moins, le sortir de façon sécuritaire de la patinoire. J'ai l'impression qu'on a décidé d'attendre l'ambulance et les ambulanciers avant de faire quelques manœuvres que ce soit. Mais j'étais le premier à penser qu'il y avait des secours qui, directement, étaient en mesure d'intervenir plus rapidement que ça.
Écoute, là, c'était pas une priorité, visiblement, là, mais quand je le jase, Denis, là, les histoires d'horreur qu'il me raconte, puis je me dis des fois à quel point la société gagnerait pas à savoir ces histoires d'horreur-là, puis il y aurait tellement de poursuites, Denis, mais
ah ouais.
Il y a des ambulanciers, des fois, qui partent, puis ils regardent la distance avec la résidence qu'ils doivent où ils doivent arriver, puis ils savent que c'est fini pour le monsieur parce qu'ils arriveront pas à temps.
Ah, mon Dieu Seigneur.
C'est en raison de la couverture ambulancière. Puis on en a souvent parlé avec Pascal, puis les ambulanciers, eux autres, ils ont des solutions. Là. Tu mets un ambulancier dans le garage de chaque hôpital qui va s'occuper de 2, 3, 4, 5 patients avec les civières, puis les autres peuvent partir tout simplement, retourner sur la route. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est les ambulances qui attendent dans le garage avec deux ambulanciers pour un patient. Puis quand l'hôpital est capable de prendre en charge le patient, ben là, l'ambulancier a le droit de quitter avec son partenaire le garage pour aller ailleurs. Mais des fois, c'est 15, 20, écoute, 30. Des fois, c'est deux heures données dans le garage avec quelqu'un qui a une hanche fracturée et ça menace pas sa vie.
Oui. Mais là, on retombe dans un air connu de notre système de santé. Pourquoi, à chaque fois qu'on a des solutions, on n'est pas capable de les mettre en pratique? Puis ton exemple est très bon, là. Tu sais, ta personne là, qui a une hanche de fracturée n'a pas besoin de deux ambulanciers temps plein sous sa surveillance, sous sa gouverne. Il y a des gens qui sont capables de juger ça. Il y a les ambulanciers, les premiers, je pense, ont suffisamment de jugement pour être capables de se dispatcher. Je veux dire, les pompiers font pareil avec les incendies à un moment donné. Je comprends qu'on est sur un territoire excessivement étendu dans la grande région de Québec, mais est-ce que ça excuse tout quand on a des solutions ou qu'on semble avoir des solutions aussi simples pour faire en sorte que les délais soient moins longs au niveau des interventions? Qu'est-ce qui empêche?
Sinon, il faudrait nous en parler du pourquoi c'est pas faisable, parce que là, on commence à juste trouver que ça bouge pas. On sent juste que tout ce qui est au niveau santé, par rapport aux solutions, on s'en fout, on met ça de côté, mais c'est parce que ça crée des problèmes plus profonds.
Ce que les ambulanciers nous disent, en fait, ce que les syndicats nous disent, c'est que ça bloque en haut. Quand ils font des recommandations comme ça, qui pourraient grandement aider la couverture ambulancière, ça bloque.
Ça bloque en haut.
Ça, c'est les fonctionnaires.
J'entends ça souvent aussi, moi, dans le système de santé en général. On avait un plan, mais ça bloque en haut. On avait une meilleure. On avait trouvé une meilleure solution pour la répartition des effectifs. Ouais, ça bloque en haut. On avait trouvé une façon de ne pas surcharger les urgences. Ouais, mais ça bloque en haut. Ça bloque en haut souvent, hein?
Denis, en fin de semaine, il y avait une manifestation.
On est-tu bien à Québec? On est-tu bien à Québec?
Ça s'en vient bientôt, je te l'annonce.
Ah non.
Il y avait une manifestation pro-Palestine à Montréal, puis à l'intérieur de cette manifestation-là, il y avait des gens qui étaient extrêmement violents.
Terrible.
Qui commettaient des crimes, littéralement, qui ont cassé des vitrines, qui sont attaqués à des journalistes, que ce soit verbalement ou même physiquement.
Et des gens qui se transforment en monstres avec un foulard d'en face.
Dans une foule, là, tu seras jamais plus... Tu sais, c'est comme une chaîne, là, tu seras jamais plus fort que le maillon faible de ta foule. Puis souvent, le quotient va diminuer, il va s'ajuster avec le maillon faible. Puis il y en avait beaucoup dans cette manifestation-là. Moi, je suis pour les manifestations pacifiques. Des manifestations comme il s'est passé à Montréal, c'est une catastrophe. On parle de millions de dollars en dégâts. On parle de policiers qui se sont fait attaquer comme pas possible. Des journalistes qui se sont fait attaquer. Seulement 3 arrestations. 110 longs sur le nouveau chef de police de Montréal.
C'est terrible.
C'est une catastrophe. Puis, le dossier que je voulais te parler, c'est le dossier de Mai Abdouladi.
Oui.
Qui est une propriétaire de café Second Cup.
Était.
Elle en a 2.
Elle en avait 2.
Dont un qui était situé à l'hôpital juif de Montréal.
Oui.
Elle était dans une manifestation pro-Palestine, puis elle faisait des saluts d'Hitler constamment.
En disant que la solution finale s'en venait. C'est des mots horribles.
Elle travaille à l'hôpital juif.
Ça n'a pas de maudit bon sens. Elle travaillait à l'hôpital juif. Mais tu sais, quand je te dis, avec un foulard d'en face, il y a des gens qui deviennent des monstres.
Ouais.
Mais les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, la dame a été très rapidement identifiée. Très rapidement, on l'a associée à son travail. Et très rapidement, elle a perdu sa job. Mon sac de sympathie est complètement vide. Comment on peut tolérer des horreurs pareilles? La violence, c'est pas juste des coups de poing d'en face.
Ouais.
Quand tu utilises ces imageries-là dans des propos anti-juifs, c'est que tu souhaites la mort d'une nation. Puis après ça, tu vas me parler de ta nation qui fait pitié puis qui souffre aux mains d'une autre nation? Fuck off, il n'y a personne qui va t'écouter.
Non.
J'ai jamais compris cette idiotie-là du manifestant très moyen de dire « je vais utiliser la violence pour dénoncer la violence ».
On coupe-tu les pas à Montréal? Pour être sûr qu'ils s'en viennent pas ici.
Je pense qu'il y a un film de Batman où ils font ça. Puis quand je vois les ponts sauter, on y a tout pensé. Là. Hey, c'est une solution, ça?
C'est parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va s'en venir ici. Puis,
ah, je veux pas. Non, parce que ma théorie, Yann, c'est que ici, les policiers ont gardé la ligne dure face aux manifestants et aux manifestations. Il y a un chef de parti qui s'est déjà ramassé avec des tie-wraps.
Amir Kadir.
Amir Kadir, pour ne pas le nommer, effectivement. Je pense que notre façon de gérer les manifestations à Québec est un petit peu plus responsable que le laisser-aller, qui n'est pas nouveau à Montréal. Là. On gagnait une Coupe Stanley, on mettait la ville en feu.
Ouais, mais
Fadi... Je comprends que ça fait longtemps, les plus jeunes, le Canadien a déjà gagné des Coupes Stanley, lisez des livres.
T'sais, Fadi Daguerre, c'est le nouveau chef de police de la ville de Montréal. On l'a mis là parce que c'est un chef nouveau genre, un chef extrêmement à gauche, qui veut être là pour sa population, qui veut être très près de sa population. C'était jamais vraiment opposé à ce que la mairesse de Montréal, qui va partir bientôt, qui est une bonne chose, elle voulait désarmer les policiers. Fadi ouais. Daguerre ne s'était pas nécessairement opposé à ça.
Une police de compromis et de compréhension.
On l'avait mis en place. Trois arrestations, c'est vraiment une blague.
Ça dépasse l'entendement et de l'entendre en point de presse dire que les policiers n'ont rien à se reprocher. Il y était combien de manifestants? 4 000? 6 000? Il y était 100. 100 manifestants, puis t'es pas capable. Il y a deux choses là-dedans, deux choses que je trouve importantes. Une manifestation, ça se gère. On l'a fait à Québec. Il n'y a pas eu un incident fâcheux, il n'y a pas eu un acte de vandalisme. Une manifestation que tu veux pas que ça dégénère, ne dégénère pas. Mais quand tu laisses, ne serait-ce qu'une mince ouverture à l'interprétation, Gabriel Nadeau-Dubois, à l'époque, en était le spécialiste. Le gars qui condamnait pas les actes de violence dans ses manifs, parce que vous savez, les jeunes, ils sont fâchés, là. Faut comprendre, là, tu sais, t'es le dirigeant des manifestations, puis tu utilises ces propos-là, tu sais ce que tu fais, là. Tu le fais de façon malhonnête, puis tu passes le message, « Ouais, ben nous autres, briser des chars de police, là, on fera rien, là, de notre côté. »
Ah, là, c'est une catastrophe.
Ça, c'est le problème numéro un. Puis si tu veux parler des policiers, moi, je veux bien, là, la police de compromis puis de compréhension, mais pas d'une manif où on met la ville en feu, là.
Ouais.
Tu sais, il y a des moments, il y a des opportunités, ça, c'en est pas une, là.
Toutes les partis politiques ont dénoncé les gestes violents qui ont été faits, sauf Québec solidaire.
Et Québec solidaire, quelle surprise! Gabriel Nadeau-Dubois, toute sa vie, a cautionné la violence dans les manifestations. « Non, monsieur, je ne l'ai pas cautionné, mise en demeure. » OK. OK, peut-être. Tu ne l'as jamais dénoncé, par exemple. Tu n'as jamais demandé à ta gang que ta gang soit des étudiants, que ta gang soit l'extrême-gauche qui manifeste. Tu ne les as jamais demandé d'arrêter les gestes violents. Fait que dans une certaine part, moi, je trouve que c'est du cautionnement.
Ruba Gaza, as-tu réagi? Non. Elle parlait dans les derniers jours de contraception. Ça, elle a parlé de ça hier.
Il me semble que... Puis, à une époque, tu sais, Yann, on a organisé une manifestation à Québec, puis une manifestation à Ottawa. On n'était pas 100. On était plus de 15 000 à Ottawa, de mémoire, puis on était entre 30 et 40 000 du côté de Québec. C'est du monde en tabarnouche. Il traînait même pas une canette à terre. Tu sais... Si tu veux qu'une manifestation se déroule bien, il n'y a pas 56 solutions. Nous autres, des manifs, on n'était pas habitués d'organiser ça, on ne savait pas comment faire. Les premières personnes qu'on a appelées, c'est les policiers de Québec, pour demander, nous autres, on veut faire une manif, puis on ne veut pas que ça dégénère. Avez-vous des recommandations, puis avez-vous des conseils pour nous autres?
Le sujet de ta manif, c'était...
Liberté!
Liberté!
Comment l'oublier?
C'était quand même émotif.
Je crie ton nom, partout!
C'était quand même émotif.
Oui.
Moi, ce qui me fait beaucoup peur dans les dernières années, c'est ça. C'est tous les sujets émotifs qui finissent en manifestations violentes.
Puis on a eu, Pascal, hein, des gens qui nous ont écrit pour proposer des gestes violents.
vouliez pas vous...
Ben non.
On les a dénoncés.
Ouais. Vous vouliez pas vous associer à ça.
On a transféré toutes les intentions aux policiers. Puis on a été très clair sur ce qu'on voulait puis ce qu'on voulait pas.
Parce que ça nuit nos messages à la base, je veux dire, parce qu'on parle juste du grabuge et non du message. Ça nuit aux discussions que tu peux avoir. Mais il y a de quoi qui me fait quand même peur des dernières années puis de ce qui pourrait s'en suivre, c'est par rapport aux tensions qui s'élèvent dans le monde puis qui se manifestent ici aussi au Canada, puis on le voit à Montréal par rapport à des conflits qui parlent de culture, oui, mais qui sont sur des territoires qui sont loin de nous et qui se manifestent de façon aussi émotive et sans contrôle.
L'idée, c'est quand tu organises une manifestation, tu as une part de responsabilité sur le contrôle de tes manifestants. Si on a été capable à Québec d'en contrôler 40 000, je pense qu'ils sont capables de faire un petit effort à Montréal. À tout le moins, les organisateurs de la manif, sinon les autorités policières, pour encadrer quoi? Une centaine de briseurs.
Mm-hmm. Il y a ça, quelques années, on avait une guerre de motards au Québec, puis les législateurs s'étaient parlé, puis on avait mis une loi, c'est que tu n'avais pas le droit de t'afficher avec ton crest de motard.
Oui.
Sinon, tu avais un nombre X d'années à faire de prison automatique. C'était un minimum, là. Je me rappelle plus, c'était-tu 5 ans ou c'était 10 ans, mais c'était suffisant pour que les Hells Angels ne mettent plus leur crest en public, parce qu'il y avait des années de prison qui venaient avec ça. Est-ce que les législateurs, la grandeur du Canada, est-ce qu'ils pourraient pas se jaser en disant, bien, les manifestations pacifiques, oui, mais à partir du moment où ces gens-là sont pris à s'attaquer à des journalistes, s'attaquer à la police,
s'attaquer bien commun,
à des propriétaires d'entreprises, parce que c'est arrivé à Montréal, les propriétaires d'entreprises qui disent, non, brisez pas ma vitrine, pouf, coup de poing en face. C'est hallucinant. Est-ce qu'on pourrait donner, je sais pas moi, si t'es né ici, c'est un genre de 2-3 ans de prison, puis si t'es pas né ici, ben hey, c'est la chance qu'on t'avait donnée, tu viens de la perdre, merci, bonsoir.
Là-dessus, je suis très ligne dure. Moi, te le dire, là, moi, le savoir-vivre, c'est des le manque de savoir-vivre, ça fait partie des choses qui m'agressent le plus. Quand tu défais du bien commun, quand tu craches sur des journalistes, quand tu te bats avec des polices, moi, c'est le maximum du manque de savoir-vivre. Le droit de manifester vient avec des responsabilités. Tu es sévère et tu as la ligne dure envers les gens qui commettent des délits. Et je te rajoute un bonus. L'organisateur de la manif, lui aussi, doit être pénalisé.
Ouf.
Parce que c'est sa responsabilité. C'est la responsabilité de Gabriel Nadeau-Dubois quand il organisait des manifs. C'est la responsabilité de ces gens-là. Oui, mais l'agressivité et puis le peuple opprimé. Bouhou! Bouhou! Hey, vous êtes rendu avec les saluts nazis. Ça va faire les affaires simples.
Parce qu'il y a un effet d'entraînement, Denis, à ça.
C'est ça qui arrive. Pis... Ta responsabilité, c'est de contrôler ton monde.
Il y a un effet d'entraînement, puis si les policiers n'agissent pas tout de suite, ou si la législation n'est pas assez forte, il a brisé une vitrine. Ah, ben, je pourrais briser la vitrine. Hey, puis by the way, le sport expert est là. Il y a des chaussures, pointures 9.5 que je pourrais aller me chercher. On va péter à vite parce que nous, on veut sauver la Palestine. Mais en même temps, on va aller chercher une paire de chouclaques à 300$.
Ouais, de troupes qui cherchent juste des manifestations pour leurs propres besoins personnels. Mais moi, je me demande si un leader de manifestation, à moi, qui amène la haine, qui l'attise, qui la propose, qui la souhaite, qui l'encourage, devrait être responsable à 100%. Si, mettons, il y a toutes ces façons de faire-là, oui, mais la police devrait être plus effective à ce moment-là.
C'est parce que t'amènes
dans la violence en contrepartie, mais il faut qu'il soit tellement strict, tellement sévère, tellement annoncé d'avance que ça donne pas envie et où que ça contrôle ces mouvements de violence-là. Parce que si, mettons, tu as un leader positif comme toi ou comme Yannick qui veut faire, dans ce cas-ci, là, pas dans tout en passant, Yannick. Je
pense pas être un leader très positif personnellement.
Mettons que vous décidez de faire une manifestation de liberté, mais que vous avez les comportements que tu viens de décrire, que tu as eu dans le temps, soit décriés quand c'est une proposition de geste haineux ou autre, ou agressif, ou peu importe. Bien, si tu es arrêté pour ça, je vois comme étant un peu problématique, là.
Non, parce que ça va t'amener, toi, et ça va amener tes gens qui veulent que ça se passe bien, à tous, à être responsables. Tu vois quelqu'un qui est arrivé habillé en noir avec un foulard d'en face que tu connais pas, qui vient foutre la marde, tu viens en parler à l'organisateur. L'organisateur en parle aux policiers. Tu es capable de désamorcer beaucoup de bombes quand les gens se parlent. Je le sais, on l'a fait à Québec avec 35 000 personnes dans les rues. Il y en avait 100 à Montréal.
Monsieur, je suis quand même pas convaincu.
Moi, je pense qu'il faut que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en lavent les mains. Il y a beaucoup de gens qui profitent de la violence. Il y a beaucoup de gens qui sont contents que ça dérape. Il y a beaucoup de gens
rien,
qui pensent...
Là, je pourrais être dans mesure coercitive, comme tu viens de décrire. Si tu fais rien, quand tu vois devant toi, en tant que leader de manifestation, t'appelles pas au CAM, t'appelles pas à ce que... Là, j'irais pour ces mesures-là.
Mais ils font jamais rien. Ils font jamais rien, puis c'est pour ça que ça continue. Puis la différence entre les manifestations à Montréal puis les manifestations à Québec, ils l'ont essayé. Ils l'ont essayé à Québec, ça n'a pas passé. Il y a eu des arrestations, il y a eu des sentences, il y a eu des comparutions au palais de justice. Ils ne l'essayent plus. Il y a plein de manifs à Québec.
Ouais.
Mais les manifs se font dans le calme et dans le respect des autres.
Là, il y en a trois qui ont été arrêtés. Ils vont comparaître ultérieurement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont prendre. Ils vont avoir un 500$ d'amende, je ne sais pas.
Ils en ont fait des dommages
certainement
à trois.
Certainement pas suffisant. T'as-tu entendu parler de l'histoire du monsieur qui avait acheté une, en fait, qui avait l'intention d'acheter une tourtière de gibier?
Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à faire de leur journée.
Lui, il va sur Facebook.
Pauvre monsieur.
Il s'en va sur Spotted. Je sais que ça va te surprendre, là, Spotted de Saguenay. Et il dit, je me cherche de la viande de gibier.
Je m'en vais voir de la famille que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. La COVID est finie. Je veux leur faire manger quelque chose qu'ils n'ont jamais mangé de leur vie. Ouais. J'aimerais savoir une tourtière de gibier.
Il a pogné une amende de 3 800$ pour avoir mis un message sur Facebook en 2022 parce qu'il il voulait acheter une tourtière à la viande de gibier. Et là, il est rendu en cour...
suprême?
Il est rendu en cour supérieure.
Supérieure.
Pour contester ça.
Il y a deux agents de la faune qui ont pris ce Spotted-là, qui sont allés chez le monsieur, qui ont fait vider son cellulaire puis son ordinateur au complet,
ouais.
Alors que le monsieur, il ne l'a pas acheté à tourtière.
Non.
Et puis même s'il l'avait acheté à tourtière, je comprends que ignorer les lois, c'est pas une bonne excuse. Mais on peut-tu donner du lousse dans des cas aussi stupides où il n'y a rien de malhonnête ou de malicieux de tenter? On n'est pas en train de détruire la ville de Montréal pour le bien de la Palestine, là. Le monsieur voulait une tourtière. Ça fait des années qu'il est là-dedans.
Les agents débarquent chez lui.
T'es un criminel!
Oui! Oui. Mais pendant ce temps, à Montréal, tu peux détruire la ville sans aucun problème. Puis t'as Fadi Daguerre qui dit, écoutez, c'est pas facile là, d'arrêter des manifestants dans une manifestation.
Ah ouais.
C'est peut-être pas le chef de police auquel on aurait besoin en 2024 pour faire face à ces gens-là. Hey, il y a un dossier qui est assez particulier puisqu'on est très impliqués, toi et moi, dans ce fameux dossier-là, l'autonomie de nos enfants.
Mon
Je me suis
Dieu
rendu
Seigneur.
Compte, moi, à 10 ans, que mon gars avait de la misère à attacher ses chaussures
ouais.
pour faire des boucles, mm-hmm. les belles boucles qui tiennent.
Ouais.
Puis là, je me suis dit, je suis en train d'errer dans ma job de père. Puis là, quand il est né, il m'avait comme donné un bottin. Là, voici comment être un bon père de famille. Le mode d'emploi pour les nuls. Non, ils m'ont rien donné. Mais à 10 ans, je me suis rendu compte que mon gars, j'y avais tout le temps nuit parce que j'y achetais tout le temps des souliers à
Velcro.
Scratch,
ah oui, mais
à Velcro.
Mais on fait tout ça.
Mais là, quand c'est arrivé les souliers avec des lacets, il me regardait puis papa, peux-tu m'attacher mes souliers? Là, je dis, Josh, j'étais 10 ans, là, j'ai pas attaché tes souliers. Oui, mais il dit, je le sais pas comment.
Ouais.
Mais je dis, je suis tellement un père indigne. Fait que, bref, j'ai passé des heures et des heures à lui montrer comment faire ses boucles et aujourd'hui, il est correct. Mais encore à ce jour, il y a des affaires que je fais par moi-même que je devrais laisser faire à mes gars pour qu'ils développent leur autonomie.
Écoute.
Et ça se répercute jusque dans des études, Denis, où on s'aperçoit que les enfants sont même pas capables d'éplucher une banane.
C'est sûr que j'ai lu ça avec beaucoup d'attention dans la presse ce matin, en tant que père qui se pose des questions sur l'autonomie de ses propres enfants, comme toutes nous autres, j'imagine. Puis bon, ben à lire les cas extrêmes qui sont racontés dans la presse de ce matin, tu te consoles quasiment, là. Tu sais, moi, j'en ai un qui a des problèmes de maturité, mais ça vient d'une condition et d'un état de fait précis qui justifie ce manque de maturité-là. Mais de façon générale... On est parti d'un extrême à l'autre au Québec. Hein. Quand une mère avait 13 flots à s'occuper, puis que le gars était déjà parti à l'usine quand c'était le temps déshabiller pour aller à l'école, t'avais pas le choix d'apprendre à lasser tes souliers, parce que sans ça, tu partais pas de souliers. Donc, tu sais, t'apprenais l'autonomie parce que t'avais pas le choix. Et là, ben, on est rendu à l'autre extrême où beaucoup de parents, et je sais pas si toi, tu vas plaider coupable, mais moi, je vais plaider coupable. Une fois de temps en temps, pour sauver du temps, tu te dis, ben je vais la débarrasser la table. Je vais l'éplucher la banane.
Les souliers à velcro, c'était ça.
Ben c'est ça.
Les souliers à velcro, c'était ça. J'étais pour sauver du temps, je me suis dit, ça va être moins compliqué.
Ouais.
J'ai nuit à mes enfants. Là, on étale un peu notre vie, là, mais tu sais, je faisais tout pour mes gars, pour le dîner, mais exemple, pour le souper. Je faisais tout. Ils m'aidaient à ranger, mais quand ils voulaient un verre de jus, c'était moins compliqué pour moi de me lever, d'ouvrir le frigidaire, aller le chercher.
Faire pareil comme toi.
Fait que là, depuis un an et demi, je suis là-dedans. Mm-hmm. Papa, je veux un verre de jus. Mais tu sais, il est où le jus? Tu sais, il est où ton verre?
Ouais.
Puis après ça, ben tu sais ce que tu as à faire. Mais avant, je le faisais pas. Mais de voir que les professeurs se ramassent avec ça, c'est une problématique. Il y a des enfants qui arrivent au primaire, Denis, ils sont pas encore propres.
Ouais.
Va te dire, ça fesse, Pascal, quand ton gars te dit, papa, de quel bord faut que j'envoie ça?
Quand je me suis.
Pas encore propre, c'est d'une tristesse. Là. Ben oui. C'est les besoins de base pour un enfant. Ben oui.
Dans une école primaire, ils ont engagé un responsable pour changer les couches.
C'est quoi son titre? La...
C'est quoi? C'est
responsable des handicapés.
Oui, ben c'est ça. Ils l'appellent le responsable des personnes handicapées, alors que c'est pas des jeunes handicapés, c'est juste des jeunes qui sont pas encore assez matures pour maîtriser leur propreté. Mais t'as engagé ce gars-là, c'est pas parce que t'en as rien qu'un là, qui a une condition particulière. Là. Ça veut dire que t'en as une Moses de gang.
C'est un retard dans le développement. Ouais. C'est une tristesse. C'est-tu le parent? C'est-tu une famille défavorisée? Oui, oui.
Moi, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Moi, ils ont été propres quand même assez jeunes. Ils retenaient de leur mère. Mais moi, j'y arrive bientôt. mais c'est ça.
On part de loin, tu sais.
À un moment donné, mon gars, il m'arrive, il y a peut-être 6 ans ou 7 ans, tu sais, puis ça fait longtemps qu'il est allé aux toilettes seul. Il dit, papa, c'est de quel bord déjà? Hein? Faut que je m'essuie. Là, je me disais, mon gars, c'est pas une fille. Fait que là, faut pas qu'il envoie ça là. OK. Fait que là, j'y explique. Mais
ça doit être le même sens, même si c'est pas une fille, je sais pas.
Ça dépend.
Ah oui, par en avant.
Ça dépend si c'est sec ou dur ou mou.
Mais par en arrière,
ben,
moi,
c'est parce que des fois, c'est par en avant, par en arrière.
Tu sais qu'avec un bidet, on réglerait tout ça. Hein?
Mais bon.
Ben, ça dépend comment c'est fait, là.
Mettons que c'est un numéro 2.
Ça me tente tellement pas d'embarquer là-dedans.
Mettons que c'est un numéro 2, ça peut être par en avant pour un petit gars.
Ben, c'est parce que des fois, t'envoies ça par en avant, puis là, c'est oups, boy, il en avait peut-être un peu trop, fait que tu y vas comme par en arrière, ben, tu badigeonnes ça.
Ben là, moi, je pensais que c'était tout le temps par derrière à la base, là.
Ben oui!
Mais même s'il y en a splouté par en avant, tu pars, puis tu vas par derrière, juste tu montes plus haut.
J'ai hâte que t'aies des enfants, parce que tu vois que la vie n'est pas si simple que ça.
Là, t'es pas en train de le ramasser, tu fais juste l'étendre.
Moi, je l'ai lavé un à hose. Je te ferai
laver. À hose à pression.
Je l'ai lavé un à hose à pression. Mais n'en demeure pas moins que nos enfants sont pas autonomes à l'école. Puis on est tous coupables de ça. Puis moi, le premier. Mm-hmm. Puis de voir que les enseignants se ramassent avec cette problématique-là. Tu sais, madame, pourriez-vous zipper mon manteau? Hey, garçon, t'as 8 ans. T'es capable de le faire.
On a des parents qui manquent de maturité aussi. Dans le récit de la presse, on nous raconte qu'une professeure a eu à dealer avec un parent qui a exigé des conséquences et une rencontre parce que son enfant s'était fait marcher sur un orteil. Les parents manquent de maturité aussi, là, dans une certaine mesure. Je m'imagine très mal un de mes gars qui me dit « je me suis fait marcher sur l'orteil par mon ami ». Je m'imagine très mal appeler le professeur et essayer de faire un call brass et un meeting au sommet pour ça. Là. Mais on est les adultes avec les nouvelles technologies, on manque de maturité, donc c'est normal que nos enfants vivent la même chose. C'est tellement triste de voir qu'il y a des enfants qui swipent les pages d'un vrai livre quand ils arrivent à l'école parce qu'ils n'ont jamais tenu un vrai livre entre leurs mains, là. Tu sais, c'est des histoires d'horreur, puis ça semble être étendu, parce que là, il y a comme un colloque là, sur la surutilisation des écrans dans la vie des jeunes, et ainsi de suite. Puis c'est pas juste... C'est pas juste un constat d'école pauvre d'un certain secteur de Montréal. Ça semble être généralisé, là, ce genre de constat-là, où on ne montre plus la maturité à nos enfants. Puis moi, le premier, je veux dire, ça fait un an que ma blonde reste avec nous autres. Puis elle travaille très fort pour casser mes mauvaises habitudes à ce niveau-là.
Il faut qu'on se parle en tant que parents. Puis qu'on se donne des trucs. Là. Tu sais, je regardais même un article de la presse que je vous ai envoyé ce matin. Chez les gars de 12 à 17 ans, le taux de consommation de pilules pour régler leur petite problématique de concentration, là, c'est un enfant sur 4 l'an dernier, Denis.
C'est l'enfer, puis il y en a beaucoup que ça devient de la médicamentation de performance. Et t'es surpris de lire ça. Des gens qui disent « Ah, moi, mon kid a 72, mais s'il se concentre plus à l'école, je pense qu'il est capable d'avoir 84, fait qu'on va lui donner des pilules. » Et la semaine passée, on apprenait qu'en dedans d'une heure et 300 $, par écran interposé de façon virtuelle, tu es capable d'avoir un diagnostic de TDAH, alors que maintenant, les subtilités sont rendues tellement poussées que si tu prends l'autre track, et ça fait peut-être partie du problème actuellement, si tu prends l'autre track, ben c'est plusieurs rencontres avec une neuropsy, mais au lieu de te coûter 300 $ puis de te prendre une heure de ton temps avec un écran, ben ça va te prendre plusieurs rencontres, puis la facture, ça va être 2 500 $.
Fait que les gars de 12 à 17 ans que le Québec, qu'on a au Québec, c'est 22,3% de ces gars-là qui prennent des psychostimulants pour être capable de se tenir en classe.
On a le record canadien.
Puis au Canada, c'est 12%.
C'est l'enfer, hein?
Oui, exact. Puis tu sais, quand on parle avec des experts, il y en a qui nous disent « Ouais, mais c'est peut-être parce que nous, on est meilleurs pour diagnostiquer le TDAH. » Puis il y en a d'autres qui disent « Hey, attendez un peu, là, faut se regarder dans le miroir, là. Peut-être qu'on utilise une solution miracle qu'on pourrait utiliser peut-être autrement, tu sais.
Ben, peut-être que ces gens-là disent qu'on est tellement bon qu'on est capable, 45 minutes en visioconférence, d'avoir un diagnostic. Moi, je pense que ça fait plus partie du problème que de la solution. Mais encore une fois, c'est des sujets qui sont difficiles à traiter parce que souvent, nous, les parents, on manque autant de maturité que nos enfants.
Exact, exact. Merci, Denis Gravel.
Hey, merci, les amis.
On t'écoute dans le retour tantôt.
Tantôt.
Dans les prochaines minutes, on aura l'occasion de parler avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, 12h30. Marceau.